Ce qui suit est une production de WebWest Balado. Entendons-nous bien.
Salut, ici Jean Fontaine. Raconte-moi l'Ouest et le Nord. Aujourd'hui, Dominique Liboiron, raconte-moi de la Saskatchewan à la Louisiane en canot. En 2012, le Fransaskois Dominique Liboiron a entrepris un grand voyage en canot pour rendre hommage à son oncle Michel, décédé prématurément 2 ans plus tôt à l'âge de 42 ans. Dominique a donc décidé d'amener les cendres de son oncle en canotant 5200 kilomètres de East End en Saskatchewan jusqu'en Nouvelle-Orléans en Louisiane. Alors dans son grand périple, il a emprunté 4 rivières, il a traversé 13 États, un voyage qui lui a pris 8 mois en tout, et qui est parsemé des 1001 aventures, comme on peut s'imaginer. Dominique Liboiron caresse maintenant le rêve de publier un livre au sujet de cet exploit tout à fait unique. On le joint à Lethbridge, en Alberta, où il poursuit ses études. Dominique Liboiron, bonjour.
Oui, bonjour, Jean.
Mais c'est un grand plaisir de te parler parce que quelle aventure assez exceptionnelle. Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter d'avoir fait un voyage comme tu l'as fait. Alors, on s'embarque dans une belle conversation au sujet de ce moment que je pense important dans ta vie. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous parles de mon oncle Michel, comme tu l'appelais.
Alors, Michel, c'était quelqu'un d'assez spécial. Et vous avez parlé de lui, vous avez parlé de son petit nom, mon oncle Michel. Ouais. Alors, c'était sa plaque d'immatriculation sur son véhicule, c'était mon oncle, M-O-N-C. Et ça représente bien qui il était, parce que c'était non seulement sa parenté qui l'appelait mon oncle, c'était aussi les gens en ville où il habitait à Gravelbourg, en Saskatchewan.
Oui.
Alors, c'était quelqu'un qui avait le don pour faire en sorte que les gens se sentent aimés et appréciés. Mmh. Alors, c'était quelqu'un d'assez spécial.
D'accord. Et pourquoi il était important pour toi?
Parce qu'il n'y a pas énormément une grande différence d'âge entre moi et lui. Alors, il y avait juste 10 ans de différence. Alors, c'était plus un grand frère qu'un oncle.
Oui. Et puis, quand il est parti à 42 ans, attaque cardiaque massive, évidemment, tu as été très peiné par ça. Je ne peux que l'imaginer. Ça, c'était en 2010. Et quelques années plus tard, tu as décidé d'honorer ton oncle. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça?
Oui, absolument. Alors, je voulais rendre hommage à Michel. Je voulais le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour moi. Et Michel, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup, beaucoup la Louisiane et la culture Cajun. Mm-hmm. Alors, c'est pour ça que je voulais amener ses cendres à la Nouvelle-Orléans. Mais aussi, je voulais déjouer la mort autant que possible, parce que finalement, la mort gagne toujours, mais je voulais encourager les gens à mieux prendre soin de la santé de leur cœur, parce que Michel a fait des choix de vie qui ont mené à sa vie courte. Je parle plutôt au niveau du fumage et du buvage,
ouais,
et un manque d'exercice. Alors, je voulais encourager les gens à rester avec nous le plus possible, parce que des gens qui sont bien aimés comme Michel, malheureusement, ils n'en mouaient pas.
Oui, effectivement.
Et, oui, alors je voulais encourager ces gens-là et tout le monde en général de mieux prendre soin de leur cœur.
Et puis, est-ce que, par curiosité, est-ce que Michel était déjà allé en Nouvelle-Orléans?
Oui, il était allé, je crois, en 1992 avec un de ses amis, Camille Boland de Regina.
Oui.
Et d'ailleurs, ils avaient vu Hadley Castier en spectacle, et Michel a développé une amitié avec Hadley Castier qui a duré jusqu'à la fin de sa vie.
Hadley Castier, oui, qu'on connaît bien dans l'Ouest canadien, parce qu'il est venu dans 1001 festivals, et puis on se parlait, toi et moi, un petit peu plus tôt, puis je te rappelais ce violon, le violon d'Hadley Castier en forme de l'État de la Louisiane. Tu te souviens probablement de ça, toi aussi?
Bien, celui que j'avais vu, c'était en forme d'écrevisse.
D'accord.
Je sais que Hadley, c'était quelqu'un qui était bien apprécié dans l'Ouest. Uh-huh. Et vraiment, il a fait quelque chose de vraiment touchant. Quand Michel est décédé, Hadley et sa famille ont enregistré une vidéo. et ils ont chanté des chansons en honneur de Michel. C'était vraiment quelque chose de touchant. Et ce que j'avais souhaité, c'est que Hadley joue du violon quand je répandais les cendres à Michel en Louisiane. Mais malheureusement, Hadley est décédé au cours de mon voyage. Alors, quand je suis arrivé en Louisiane, je suis allé à Appaloosa, d'où venait le village ou la petite ville où Hadley habitait, et j'ai répandu les cendres à Michel, quelques-unes des cendres à Michel sur la fosse à Hadley.
Alors, parlons du début du voyage, l'itinéraire, il a fallu quand même l'établir, la destination finale, on la connaissait, la Nouvelle-Orléans, mais parle-nous de l'itinéraire un peu que tu as choisi pour faire ton voyage en canot.
Quand j'étais à l'école secondaire, j'avais lu un livre qui s'appelle « Paddle to the Amazon », écrit par un monsieur Don Starkel de Winnipeg, qui est allé de Winnipeg jusqu'au Brésil en canot. Et il a établi un record Guinness pour le plus long voyage en canot à l'époque. C'est un voyage de 2 ans. Et ce livre-là a complètement mis feu à mon imagination.
D'accord.
À date, c'est le livre qui a touché ma vie le plus. Et ils ont commencé sur la rivière Rouge et éventuellement sont arrivés dans le fleuve Mississippi. Et en lisant ce livre, je me suis rendu compte que c'était possible de faire un voyage en canot de la Saskatchewan jusqu'à la Nouvelle-Orléans. J'avais pas vraiment l'intention d'aller plus loin que ça.
Mm-hmm.
Donc, ce livre-là a inspiré mon trajet et a aussi inspiré mon voyage.
Oui.
Mais quand j'ai terminé l'école secondaire, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais complété le voyage où j'avais... Je l'avais à l'idée, mais je ne l'ai pas faite. Et là, quand Michel est décédé, je me suis rendu compte que jamais j'aurais une meilleure raison pour entreprendre le voyage. Alors, en gros, je suis quitté de chez nous en Saskatchewan, sur la rivière Frenchman. Et par ensuite, j'ai traversé la frontière des États-Unis. Et là, il m'a fallu une permission spéciale pour faire ça.
D'accord.
Mais on me l'a accordé parce que c'était... pour une cause, pour sensibiliser les gens au niveau des maladies du cœur.
Mm-hmm.
Donc, j'ai eu une permission spéciale pour traverser la frontière. Et là, par ensuite, j'ai rejoint la rivière au lait, et là, la rivière Missouri, et là, éventuellement, le fleuve Mississippi.
Je ne peux pas m'imaginer ce que c'est 5200 km en canot, mais ce que je sais, c'est que c'est toute une aventure, puis il faut se préparer, il faut penser à où on va coucher, il faut penser à la nourriture. Comment tu t'es organisé pour la logistique de ton voyage?
Souvent, quand les gens me parlent au sujet du voyage, ils ont plus tendance à se concentrer sur le voyage comme tel, mais à vrai dire, ce que j'ai aimé le plus du voyage, c'était le 6 mois avant le voyage, durant lequel j'ai tout planifié. Et c'était le meilleur temps de ma vie. Et j'ai jamais ressenti autant de dévotion et autant de cause. Et c'était comme une nouvelle énergie qui m'a tellement motivé. Et en gros, ce que j'ai fait, c'est que je savais que je pouvais pas exactement déterminer où j'allais rester chaque soir parce que le temps et le courant d'eau allaient changer ça. Mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisé pour que je pouvais faire du camping en cours de route. Et au niveau de la nourriture, j'amenais de la nourriture qui se gardait à 100 glaciaires. Donc, je me suis organisé pour avoir des repas hydrolysés. En anglais, on dit freeze-dried. Alors, on a juste à ajouter de l'eau bouillante. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais aussi acheté un GPS spécial qui me permettait de télécharger à l'Internet mes coordonnées, comme ça que les gens qui suivaient mon voyage savaient que j'étais sain et sauf parce que je pouvais leur indiquer où j'étais à la fin de la journée. Et il y avait aussi un bouton sur le GPS qui me permettait de rejoindre les services de secours.
D'accord.
Alors ça faisait une grande partie de ma planification aussi.
Donc, la planification était extrêmement importante. Non seulement elle a été jouissive, mais elle a été très, très importante. Tu étais bien préparé, mais des imprévus, quand on fait un voyage comme celui-là, il y a dû y en avoir. Ça a été quoi les plus grands défis, Dominique Liboiron, auxquels tu as fait face pendant ton voyage en canot?
Bien, le plus grand défi, je dirais, c'était avant le voyage, c'était de me convaincre que l'idée était pas folle.
D'accord.
Que l'idée de descendre en canot pendant 5000 kilomètres, que c'était pas fou. ça a duré un an. Je me suis testiné avec moi-même pendant un an. Puis finalement, je me souviens quand je me suis fait l'idée, je revenais de Noël. C'était le deuxième Noël après que Michel est décédé. Puis je regardais au plafond, j'étais couché, puis je me suis dit non, finalement, il n'y a rien de mieux que je peux faire avec le temps que j'ai. Durant le voyage comme tel, je dirais le vent, surtout au Montana et dans les deux Dakota, ça c'était vraiment difficile par bout. Mais finalement, ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu de me battre contre le vent toute la journée, parce que vraiment comme pendant 8, 10, 12 heures, je me battais contre le vent, puis à la fin de la journée, j'avançais peut-être 8 kilomètres. Alors, c'était vraiment une perte de temps.
Wow.
Alors, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai changé mon itinéraire. Et je me suis décidé de faire du canotage la nuit. J'attendais que la pleine lune monte. Et dans des régions comme le Montana et les Dakota où il n'y a pas beaucoup de gens et donc pas beaucoup de lumière, on voit vraiment bien la nuit sous la pleine lune. Alors, c'est ce que je faisais, c'est que j'attendais peut-être 8h, 9h du soir. Et là, je commençais à pagailler sous la pleine lune et j'avançais beaucoup, beaucoup plus loin au lieu d'avancer, disons, 8 ou 10 kilomètres. J'avançais peut-être 30 ou 40 kilomètres quand il n'y avait pas de vent. Et par bout aussi, j'avais des difficultés avec mes jambes parce que à force de rester assis dans un canot pendant des mois, je commençais à perdre la force dans mes jambes. Et même qu'à la fin de mon voyage, j'avais beaucoup, beaucoup de difficultés à marcher, même pendant une heure ou deux. Et j'ai commencé à saigner des pieds après le voyage parce que la peau sous mes pieds était devenue tellement molle parce que je marchais pratiquement plus. Je passais mes journées en canot. Alors, wow. J'ai dû faire de la réhabilitation après le voyage.
Ah, ça, c'est quand même incroyable. Donc, le haut du corps devait être extrêmement développé, mais tout le bas du corps travaillait beaucoup moins.
C'est ça. Et c'est un peu de ma faute parce que j'essayais de me rendre le plus loin possible chaque jour. Alors, je choisissais des terrains de camping ou des places à camper directement contre la rivière. Alors, il y avait des journées où je marchais peut-être 100 mètres pendant toute la journée.
Oui, d'accord. Et puis, je lisais aussi sur ton site Internet, et d'ailleurs, on donnera les coordonnées à la fin de l'entrevue, que tu as donné au total 6,5 millions de coups de pagaie d'aviron. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail musculaire dans le haut du corps, comme on dirait.
Oui, c'est ça. Alors, j'étais en vraiment bonne forme physique au niveau du pagaillage. Alors, je pouvais pagailler 2 ou 3 semaines sans relâche chaque jour et j'avais pas mal au bras.
On est parti tôt ce matin. Le vent du nord caresse nos mains. Plus de soucis, loin de rivage. Il n'y a que rêve et le tour du monde, rend.
J'aimerais que tu nous parles de ton arrivée au fleuve Mississippi, parce que c'est quand même un fleuve mythique. Quand on pense au fleuve Mississippi, il y a plein d'images qui sont évoquées. Et ça, c'est à Saint-Louis, je pense, que t'es passé de la rivière Missouri au fleuve Mississippi. Comment ça s'est passé?
Oui, c'est ça. Alors, ces deux rivières-là sont symboles des États-Unis. Et oui. Surtout, le Mississippi compte parmi peut-être les fleuves ou les rivières les plus connues au monde. Mm-hmm. Et chacun représente sa région. Alors, le Missouri, c'est surtout une rivière de l'Ouest. Et c'est une rivière qui passe dans un terrain agricole où il y a beaucoup d'élevage de céréales ou de bétail. Et le Mississippi, à certains endroits, surtout à Saint-Louis, c'est une rivière à le bord duquel il y a beaucoup, beaucoup de développement industriel. Alors, c'était assez spécial d'arriver à l'embouchure du Missouri où il rejoint le Mississippi. Et cet endroit-là s'appelle le mariage des eaux. Et je suis arrivé, c'était en soirée, il faisait noir. Et derrière moi, je me souviens, il y avait la rivière Missouri qui était plongée en noirceur. Et c'est surtout en arrivant à Saint-Louis, il y a des endroits où c'est assez isolé le long de la rivière Missouri. Et quand je suis arrivé à la rivière Mississippi, c'était assez spécial parce que elle était tellement illuminée d'usines et il y avait des barges. Et je me souviens qu'il y avait beaucoup, beaucoup de lumière. Et c'était vraiment spécial d'arriver là parce que je voyais que j'avais complété la transition entre la partie des États-Unis qui est agricole et celle qui est plus industrielle.
On s'imagine qu'un long voyage comme ça, c'est très, très... ça se fait en solitaire. Tu es tout seul dans ton canot. Mais il y a dû quand même y avoir, au fil de tes aventures, des rencontres avec des gens. Est-ce que tu as rencontré des gens qui t'ont marqué pendant ton voyage?
Oui, absolument. Et il y avait de longues périodes de solitude. Mais pendant les premières six semaines de mon voyage, j'étais toujours accompagné d'amis ou de parenté. Et mais oui, j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires le long du voyage. Je me souviens un en particulier qui s'appelle Dale Sanders, qui plus tard allait établir un record Guinness parce que à 80 ans, il a complété toute la rivière Mississippi en canot. Wow. Et plus tard, il allait aussi compléter le sentier des Appalaches. Donc, il a marché de la Géorgie jusqu'au Maine. Et c'est un monsieur assez dynamique, assez incroyable. Et je me souviens, moi, je ne le connaissais pas. J'avais entendu parler de lui, mais je ne savais pas où il vivait. Mais d'autres gens que j'ai rencontrés en cours de route m'avaient dit, « Oh ben, j'espère, Dominique, que tu vas avoir la chance de rencontrer Dale. » Puis j'ai pensé, « OK, ben, il sonne comme un bon gars, mais je ne sais pas où il habite. Puis peut-être je vais le rencontrer, mais peut-être je ne vais pas le rencontrer. » Puis, je me souviens, j'étais à Memphis et j'avais l'intention d'arrêter à Memphis pour acheter des épiceries et aussi, je voulais aller voir Graceland. Je voulais aller voir où Elvis vivait. Et je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a crié mon nom. Il y a quelqu'un qui a crié « Are you Dominic? » Puis j'ai regardé sur la berge, puis il y avait un monsieur avec une grosse barbe blanche. Uh-huh. Puis j'ai dit, oui, c'est moi. Puis il a dit, come here, I want to talk to you. Puis je me suis approché en canot, puis en sortant du canot, il m'a posé en photo comme 10 fois. Puis j'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait. Mais je m'en doutais un peu c'était qui. Alors, il s'est présenté, puis il a dit, « Je m'appelle Dale, puis j'aimerais vraiment ça t'aider avec ton voyage. » Puis, juste la façon qu'il s'était pris, je trouvais ça un peu bizarre, mais en même temps, je voyais que c'était une bonne personne. C'était pas une personne qui m'aurait fait du tort. Mm. Alors, finalement, j'ai resté chez lui, avec lui et sa femme, pendant 4 jours. Il m'a amené manger dans des restaurants barbecue là, à Memphis, incroyable. Memphis est vraiment connu pour sa nourriture. Alors, c'est vraiment quelque chose de spécial. Puis, il m'avait beaucoup aidé, beaucoup dépanné. Et ça a été une belle rencontre. Puis même, ça fait 10 ans, puis on est restés amis. Puis c'était des rencontres comme ça que j'ai souvent eues aux États-Unis.
Oui, et puis tu appelles ça les River Angels, hein? C'est le nom qu'on leur donne à ces gens qui viennent à la rencontre des canoteurs qui passent devant chez eux.
C'est ça, il y a une communauté de gens aux États-Unis qui aident les gens qui font du canotage. Alors, ce réseau-là existe surtout le long de la rivière Mississippi et le Missouri. D'accord. Et si on a besoin d'aide, on peut leur demander. Ou si on a tout simplement besoin de place pour rester la nuit ou quelqu'un pour nous conduire à l'épicerie, ils vont nous aider. Et je me souviens, il y avait une madame à Pierre, dans la ville capitale du Dakota du Sud, qui m'avait aidé et j'avais besoin d'acheter des épiceries. Oui. Et je me souviens, c'était assez incroyable, elle m'a donné les clés de sa voiture.
Wow.
Et pendant l'après-midi, j'ai eu accès à son auto et je suis allé acheter des épiceries. Et je me souviens, elle avait insisté que je lui donne pas d'argent, que j'achète pas de gaz. C'était juste par bonté qu'elle avait fait ça.
Je rappelle que je suis avec Dominique Liboiron, qui a fait un voyage en canot assez exceptionnel de la Saskatchewan jusqu'en Nouvelle-Orléans, avec à bord de son canot l'urne qui contient les cendres de son oncle Michel. Faut que je te pose la question, est-ce que tu avais l'impression, Dominique, que ton oncle t'accompagnait pendant le voyage?
Non. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé cette question-là. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Oh ben, Dominique, je suis certain que Michel est avec toi. » Ça fait pas partie de mes croyances. Selon moi, quand une personne est décédée, on ne peut plus avoir contact avec eux et ces gens-là ne savent pas ce qu'on fait pour eux. Cela étant dit, par contre, je me souviens un soir, j'avais rêvé à Michel et c'était comme si il était encore en vie. Et dans le rêve, j'étais dans son salon et j'étais assis. Il y avait comme 2 chaises berçantes dans son salon. Puis on était assis comme on était assis dans le temps. Et ce que je me souviens du rêve, c'est que ça semblait tellement réel. Souvent, quand on rêve des gens, ouais, les gens ne se ressemblent pas. Mm-hmm. Où il y a des détails qui font aucun bon sens, mais pas ça. Ça, ce rêve-là, les livres qui étaient sur la table étaient, comme dans la vraie vie, étaient là dans le rêve. C'était vraiment réel. La seule affaire qui manquait, c'était l'odeur de cigarette dans son salon.
Alors, un rêve très réaliste, donc un peu comme si tu y étais vraiment là.
Oui, exactement.
OK, parlons de ton arrivée en Louisiane. On arrive au bout du voyage. J'imagine qu'on est content d'arriver. Et si je regarde les dates, tu es arrivé à peu près pendant le Super Bowl qui avait lieu en Nouvelle-Orléans.
Oui, c'est ça. Et même que ça m'a causé des difficultés parce que moi, le Super Bowl est en Nouvelle-Orléans, mais je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit d'être sur la rivière.
Oh.
Il y avait énormément de sécurité en ville et même, je peux dire, sans exagération, dans le quartier, en français, on dit le vieux carré, en anglais, ils appellent ça « the French Quarter ».
Oui.
Et il y avait littéralement un policier sur chaque coin de rue dans cette partie-là de la ville. Je ne parle pas de toute la ville en général. Et ce qui m'est arrivé, c'est que j'arrivais à la toute fin de mon voyage, là, je veux dire comme le dernier 2000, disons, dernière mille du voyage.
D'accord. Mm-hmm.
Et il y a un bateau de la garde côtière qui m'a arrêté. C'était un bateau qui avait une mitrailleuse sur le devant.
Okay.
Et on m'a demandé, c'était vraiment drôle en fait, on m'a demandé mon permis de conduire. Puis j'étais en canot. Puis... Alors, je leur ai donné ça, puis je leur ai demandé, ben, comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez savoir, comme, qui je suis, d'où je viens et tout ça? Et ils m'ont dit, ben, à cause du Super Bowl, on avait demandé aux gens de ne pas aller sur la rivière. Mm-hmm. Puis, donc, moi, je m'inquiétais un peu parce que je voulais pas que la garde côtière gâche la fin de mon voyage et mon arrivée que j'envisionnais depuis un an et demi. Alors, je leur ai dit que la chaîne de télévision CBS me filmait, et c'était vrai d'ailleurs, pour un exposé qui allait paraître devant le Super Bowl et que la garde côtière allait paraître très, très mal s'ils m'arrêtaient après 8 mois de voyage. Et donc, ils se sont regardés, ils m'ont remis mon permis de conduire, puis ils m'ont dit, ben OK, tu peux t'en aller, puis si on a besoin de te parler, on va te trouver sur la côte. Alors, ils m'ont laissé aller, puis en fin de compte, tout a bien terminé.
Finally tonight, a lot of people have come here for the Super Bowl, but a man named Dominic has come to New Orleans for an entirely different reason.
That's Dominic Liberon of Medicine Hat, Alberta. He started clean-shaven 8 months ago.
Tu as été vu par des millions de téléspectateurs, si je comprends bien, pendant le Super Bowl.
Oui, c'est vraiment spécial. J'ai travaillé avec une équipe de CBS qui était vraiment professionnelle, vraiment comme... Ils ont vraiment bien tourné ça. On a tourné un petit reportage qui a paru devant le Super Bowl, qui a été diffusé partout aux États-Unis, évidemment, mais même autour de la planète sur les bases militaires américaines.
Nearly 3,300 miles total, all in a canoe.
They have planes in Canada, you know.
we have to get to them with dog slayers.
Oh, do you? Yeah. I didn't know that.
Et après que ça a paru à la télévision, j'ai reçu tellement de messages et de emails, il m'a fallu 4 jours pour tous les répondre. Mais un particulier dont je me souviens venait d'un sergent de l'armée américaine qui était en Afghanistan et il m'a dit « Hey Dominic, j'ai vu ton reportage et j'ai vraiment trouvé que ton oncle était quelqu'un de spécial. » Et je veux t'aider avec tout ça. Puis il m'a envoyé 250 $ américains de l'Afghanistan.
Juste comme ça, là. Puis pourtant, tu n'étais pas en collecte de fonds, toi, à ce moment-là.
Non, c'était juste qu'il voulait m'aider. Puis il reconnaissait. Il y avait quelque chose chez mon oncle qu'il trouvait inspirant. Et il trouvait que Michel savait bien vivre.
Quand tu es arrivé tout près du but, tu écoutais un poste de radio, puis il y a une musique que tu as entendue qui t'a rappelé mon oncle Michel.
Pendant mon voyage, j'étais souvent seul. Et alors, j'écoutais beaucoup la radio. Et je me souviens que quand je me suis approché de la Nouvelle-Orléans, les postes de radio ont changé et le genre de musique a changé. Alors, on jouait plus de Zydeco, plus de musique Cajun. Même qu'il y avait des postes en français aussi, ça c'était à Quaibon, en Louisiane. Je me suis rendu compte que, wow, j'arrivais vraiment à la fin. Là, comme il y a de la musique Cajun à la radio. Là je m'approche de la Louisiane puis de la Nouvelle-Orléans. J'étais content, puis là, tout à coup, je me suis rendu compte jusqu'à quel point c'était triste que mon oncle n'était plus en vie, puis que jamais il saurait. Et ça m'avait vraiment surpris à quel point que les larmes c'était comme un coup d'éclair. Puis j'ai commencé à pleurer juste comme ça. Mais alors, c'était triste, mais... Quand je pense à ces moments-là aussi, c'était aussi très beau. Puis c'était aussi ce que j'aimais du voyage et ce qui me manque du voyage, c'est que chaque jour, j'ai vécu des aventures où il y avait, ou sinon, il y avait toujours la possibilité d'aventure. Quand je suis arrivé à la Nouvelle-Orléans, j'ai participé au Mardi Gras. Puis je me souviens, il y avait deux de mes amis de Saskatoon là, qui étaient venus me rejoindre. Et on est allé dans un bar qui s'appelle le Tropical Isle. Et c'était vraiment spécial parce que mon oncle Michel avait coutume d'avoir une émission de radio Cajun sur la radio communautaire. Et je me souviens qu'il parlait souvent d'un monsieur qui s'appelle Bruce Degrepon. Et donc, je rentre dans le bar Tropical Isle. Qui joue M. Bruce Degrepon en personne? Alors, je lui ai tout conté l'histoire du voyage et c'était le fun de le rencontrer. Et je me souviens que Bruce m'avait donné un disque compact de sa musique, puis il l'avait signé. Puis je suis retourné en Louisiane en 2015 et j'ai été au même bar, puis Bruce jouait d'ailleurs. Alors, c'était le fun de le rencontrer de nouveau puis de jaser avec lui.
T'as amené l'urne avec les cendres de ton oncle. C'était quoi ton intention? Qu'est-ce que tu voulais faire avec les cendres une fois arrivé en Nouvelle-Orléans?
Ce que j'avais pensé faire, c'était acheter une fosse dans un cimetière à la Nouvelle-Orléans. Mais là, quand je me suis informé, ça allait coûter très cher, puis il y avait des coûts annuels aussi associés à ça. Il fallait payer, je pense,
oui,
600 $ par année juste pour maintenir la fosse. Mais finalement, ce qui a fait mon idée, c'est que quand je suis arrivé à peu près dans l'État du Missouri, les gens ont commencé à me parler au sujet d'une parade qui s'appelle la Société Sainte-Anne, qui a lieu le jour du Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Et en gros, ce que c'est une parade où les gens se costument et ils se promènent dans les rues de la ville avec les cendres des gens qui sont décédés pendant cette année-là. Alors, ça peut être des amis ou ça peut être de la parenté. Et quand j'ai entendu parler de ça, j'ai pensé, waouh, il faut absolument que je participe à ça. Et ça a juste bien à donner que c'était à peu près 2 semaines après mon arrivée à la Nouvelle-Orléans. Alors, même si le canotage comme tel, comme le voyage comme tel, a pris fin le 28 janvier. Vraiment, la fin du voyage, c'était cette journée-là. Je crois que c'était le 12 ou le 13, à peu près février. Et pendant cette journée-là, j'ai marché avec les cendres à Michel dans la rue, une ville qui lui était importante. Et là, la parade prend fin contre la rivière Mississippi et j'ai répandu les cendres à Michel dans la rivière. Et alors, il est en permanence à la Nouvelle-Orléans et dans le fleuve Mississippi et qui aujourd'hui serait dans le golfe du Mexique.
J'ai l'impression qu'on pourrait parler encore des heures et des heures parce que je soupçonne qu'on fait juste effleurer tout ce que tu pourrais nous raconter. Mais ce que je sais aussi, c'est que ce voyage très marquant pour toi, tu veux que ça devienne un livre éventuellement. Il y a même un titre, c'est « Ashes on the Great Water ». Il y a un site internet, ashesonthegreatwater.com. On en est où avec le projet de livre, Dominique Liboiron?
Alors, le livre est écrit. Il me reste à faire des révisions. Alors ça reste à faire. Et là, par ensuite, trouver une maison d'édition pour publier le livre.
Et tu as fait aussi, tu as publié un site Internet au sujet du voyage comme tel. Si les gens veulent avoir davantage de détails, c'est canoe2neworleans.com. Beaucoup d'informations là-dessus. On te souhaite bonne chance avec tous tes projets. C'est une aventure très, très inspirante, Dominique, que tu viens de nous raconter. Merci beaucoup de l'avoir fait.
Merci beaucoup, Jean.
Raconte-moi de la Saskatchewan à la Louisiane en canot est une production de WebWest Balado, animée par Jean Fontaine et réalisée par Yann Dallaire. Notre invité, Dominique Liboiron.